Et nous sommes en train de construire les choses petit à petit. Vous vous en rendez compte? Nous avons donc fini cette histoire de structure. Il me semble donc que ce que l'on peut dire, c'est que lorsque l'on tient compte des indices structurels de l'évangile selon Matthieu, on en arrive à la conclusion que l'évangile est construit autour de cinq discours, autour de d'une alternance entre des textes narratifs et des discours, et il y a cinq groupes de textes de ce genre-là. Hein. Narration, discours. Bien. Et que Matthieu a voulu construire son évangile ainsi pour mettre en évidence l'intention de Matthieu, grand 5, ce que j'appelle le royaume et le roi. Alors, je vais essayer de mettre ça rapidement en évidence pour passer à la théologie de Matthieu et ne pas perdre trop de temps quand même sur ce point-là. Dès le début de l'évangile, selon Matthieu, donc dans la première section, vous prenez le plan de Matthieu, et on a donc dans le prologue la venue du Sauveur annoncé. Le Sauveur est présenté. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle, je l'ai appelé Sauveur dans ce titre? C'est parce que le nom qui est donné à Jésus, c'est le nom de Yeshua, l'Éternel sauve, et le texte dit, c'est parce qu'il sauvera le peuple de son péché. Donc, le nom de Jésus, c'est le Sauveur, l'Éternel sauve. Et ce Sauveur est annoncé, est présenté dans ce prologue, au moyen de six péricopes. Ça commence par la généalogie et on arrive donc à la fin au retour à Nazareth lorsqu'il s'installe à Nazareth. Nous allons revenir sur ce prologue à la fin du cours, je vais y revenir. Et j'aimerais simplement souligner cela, c'est que au moyen des cinq péricopes après la généalogie, on trouve déjà ça dans la généalogie, mais au moins les cinq péricopes qui suivent. Chaque fois, Matthieu nous dit ce Sauveur, ce Yeshua, c'est celui qui accomplit les prophéties. Celui que je vous présente, c'est celui qui accomplit le dessein de Dieu. Cinq fois, le mot accomplir, hein, ainsi s'accomplit la prophétie. La Vierge viendra enceinte, etc. Chaque fois, cinq fois, ce Sauveur est présenté comme l'accomplissement du plan de Dieu, l'accomplissement de ce qui a été préparé dans l'Ancien Testament. Voilà le prologue. Le roi est annoncé. Il est Sauveur, il est Dieu avec nous. On trouve ça donc dans le chapitre, dans les chapitres 1 et 2. À partir du chapitre 3, le royaume est proclamé. Le royaume est proclamé tout d'abord par Jean-Baptiste, puis par Jésus. Vous savez que Jean-Baptiste joue dans l'évangile selon Matthieu, et l'on retrouve cela aussi dans Marc, et l'on retrouve ça dans Luc, joue le rôle de personnages charnières, de personnages qui assurent le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est lui qui annonce celui qui vient, c'est le dernier personnage de l'Ancien Testament, pourrait-on dire, qui introduit officiellement, publiquement par le baptême, celui qui accomplit les promesses de Dieu. C'est le rôle de Jean-Baptiste. Jésus débute son ministère. Nous avons donc cela dans les chapitres. Ça va, vous avez le plan sous les yeux. Hein. Jésus débute son ministère par l'annonce de l'évangile du royaume. À partir de ce moment-là, dit le texte, chapitre 4, verset 37, pas verset 17, pardon, Jésus commença à proclamer, convertissez-vous, repentez-vous, le règne des cieux, le royaume des cieux s'est approché. Alors, tout d'abord une remarque à propos de cette traduction. De très nombreux exégètes privilégient la traduction « règne » et abandonnent la traduction « royaume ». Alors pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent souligner le caractère présent du règne de Dieu. Avec Jésus, eh ben Dieu est là et règne. Hein, il est là. Et il est vrai que Jésus dit « le règne de Dieu est parmi vous ». Ou le royaume de Dieu. C'est le même mot en grec, hein, basileia. On peut dire de deux manières. C'est-à-dire que cette interprétation ne me convainc pas personnellement. Je préfère de loin l'idée de royaume. Le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu s'est approché, convertissez. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que ce qu'on attend, toute espérance de l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement l'espérance d'une relation avec Dieu. C'est aussi l'espérance de l'instauration d'un royaume, d'une nouvelle création, d'une nouvelle terre. Et ce qui se passe avec Jésus, c'est qu'au travers de ce personnage que Matthieu nous a présenté dans les deux premiers chapitres, ce personnage qui accomplit tout, nous allons y revenir, au travers de cela, le royaume s'est approché parce que le roi est là. Le reste du royaume n'est pas encore là. Ce n'est qu'avec la fin des temps, avec le retour de Jésus, que le royaume sera instauré de manière définitive. La nouvelle terre sera instaurée ici-bas. Mais ce royaume commence à être là. Il est au milieu de nous, dans le sens qu'en Jésus, le début du royaume est là. Donc, chapitre 3, 4, nous assistons au début du ministère public de Jésus. Ce que j'aimerais, et dès le chapitre 5 à 7, les chapitres 5 à 7, la parole du royaume, l'évangile du royaume est présenté. Ce Jésus qui accomplit nous apporte cet évangile qui est le sermon sur la montagne. Dès le début, Matthieu présente le contenu du message du royaume. Et l'on va assister, je fais un rapide survol, hein, nous y reviendrons encore. On va assister, à partir de cela, à un clivage de plus en plus net au sein du peuple. Entre ceux qui acceptent cet évangile, ceux qui le rejettent, et plus le clivage va s'opérer au sein du peuple, plus le roi va se présenter et va devenir central. Son identité va être comprise ou rejetée. C'est ce que Matthieu essaie de montrer. Alors je vais prendre un exemple de cette progression dramatique dans l'évangile selon Matthieu. Nous n'avons pas le temps d'étudier cela section après section. Mais je vais vous prendre un exemple. On va prendre la troisième section, l'autorité du fils serviteur et le royaume proclamé, 8.1 à 11.1. Et on va prendre la quatrième section. Intrusion du royaume et montée de l'opposition. 11.2 à 13.53. Donc c'est la page 42. Ça va, tout le monde suit ? C'est assez clair ? Parce que je... Bon, c'est énorme, l'évangile selon Matthieu. Alors, j'aimerais souligner comment Matthieu, et on ne trouve pas ça dans Marc, on ne trouve pas ça dans Luc, va mettre en situation ce drame qui est en train de s'opérer en Palestine. Certains vont reconnaître de mieux en mieux le Christ, le Sauveur. D'autres vont le rejeter de plus en plus. Et cela, pourquoi ? parce que l'identité du roi va se révéler, elle aussi, de plus en plus. Alors, comment est-ce que Matthieu va montrer cela? Alors, il me semble que c'est un peu comme un morceau de musique, il y a trois notes. Matthieu va jouer trois notes pour mettre cela en évidence. Dans ces deux sections, hein, il faudrait reprendre chaque section les unes après les autres. La première note, c'est celle de l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Tous les exégètes soulignent que dans les chapitres 8 et 9, donc dans la section 3, l'autorité de Jésus est un thème important. Alors, dans la section qui a précédé, Sermon sur la montagne, Jésus a démontré son autorité par son enseignement. Et la section, donc 2 du Sermon sur la montagne, se finit sur cette note d'autorité. Chapitre 7, donc la fin de la section 2, chapitre 7, verset 28. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, voilà comment se finit la section 2. Alors, vous sentez déjà qu'il y a un clivage. Matthieu suggère que d'un côté, il y a les foules qui sont frappées par l'autorité de Jésus, et que les foules font bien la différence avec les scribes. Les scribes, c'est les théologiens reconnus de l'époque. Bien. Cette section, donc, 2, finit sur l'autorité du Christ, opposée à celle des scribes. Dans la section 3, chapitre 8, à 11.1, à la fin de 10, si vous voulez, l'autorité de Jésus est constamment rappelée. Jésus démontre, en 8.1 à 9.34, c'est-à-dire dans la section narrative, l'autorité qu'il a prouvée dans son enseignement par ses actes. Jésus démontre dans ce qu'il fait, section narrative, la même autorité que celle dont il a fait preuve dans ce qu'il a enseigné en sermon sur la montagne. On voit Jésus opérer des guérisons. Lépreux, serviteur d'un centenier, la belle-mère de Pierre. Des guérisons. Dans le plan, j'ai marqué le serviteur qui s'est chargé de nos maladies. Et l'on voit cette première petite section finir sur 8, 16 à 17, des guérisons diverses. Le soir venu, je lis le texte, on lui amena de nombreux démoniaques, il chassa les esprits d'un mot, il les guérit. Il guérit tous les malades pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe, c'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il accomplit. Jésus a autorité sur la maladie, en tant que serviteur. Mais ce Jésus, ce sauveur, c'est aussi un rabbi qui se nomme le Fils de l'homme. Si vous suivez mon plan. On trouve ça dans 8, 18 à 9, 34, hein, le petit b. Tout le monde là, sous les yeux? L'autorité du rabbi et du Fils de l'homme. Alors là, vous avez une section qui est très bien structurée. Vous avez des appels, des vocations. Alors, vous voyez les petits tirets que j'ai mis. Vous avez tout d'abord l'appel au discipulat, 8, 18 à 22. Voyant de grandes foules autour de lui, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Un scribe s'approcha, lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé la tête. » Un autre des disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus dit, « Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. » Vous avez là un rabbi qui fait preuve d'autorité. Vous savez que ce qui distingue Jésus des rabbis de l'époque, des scribes de l'époque, c'était qu'à l'époque, les disciples choisissaient leur rabbi. Ils disaient, moi je veux aller à Aix-en-Provence, moi je veux aller à Vaux-sur-Seine, moi je veux aller à Arago, moi je veux aller à Toulouse, à l'Institut catholique par exemple. Bon. On choisit sa faculté. Avec Jésus, on ne choisit pas. C'est lui qui appelle. Il dit, toi, tu me suis. L'autorité du rabbi. Et puis on voit dans le texte trois actes d'autorité. L'autorité sur les éléments, 8, 23, 27, c'est la tempête qui est apaisée. L'autorité sur les démons et l'autorité sur le péché. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Trois actes d'autorité qui ont scandalisé, en particulier pour les péchés. Il se prend pour qui, lui? Mais il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner. C'est ce que disent les scribes, les pharisiens, qui l'entendent dans au chapitre 9, verset 1 à 8. Puis après, vous avez l'appel de Matthieu, une deuxième vocation qui structure cette section. Chapitre 9, verset 9 à 17. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant assis au bureau des taxes un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et il le suivit. De nouveau, le Fils de l'homme, le rabbi, qui fait acte d'autorité en appelant à le suivre. Et puis après, vous avez de nouveau trois actes d'autorité sur la mort et la maladie. Chapitre 9, versets 18 à 26. 9, 27 à 31. Et un muet libéré. C'est très bien structuré, hein, vous voyez. Une vocation, trois actes d'autorité sur les éléments, les démons et le péché. Une nouvelle vocation, trois actes d'autorité sur la maladie et la mort. Et cette section se conclut sur quoi? 9, 35 à 38, sur un rappel de l'autorité de Jésus sur la maladie et sur son autorité quant à la vocation. 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis après, il appelle les disciples et les envoie. Guérison, autorité pour la vocation. Soumis, bien sûr, au Père. Je ne sais pas si vous voyez comme l'autorité de Jésus est présentée dans les textes. Alors cette note d'autorité est explicitement soulignée dans certains versets. Chapitre 7, verset 29. Ça c'est la fin, c'est le texte que nous avons lu à la fin de la section 2. Puis chapitre 8, verset 4. Et Jésus lui dit... Garde-toi d'en dire à personne, garde-toi d'en dire mot à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ils auront là un témoignage. Un témoignage de quoi? De mon autorité. Je viens de te guérir. Chapitre 8, verset 9. 8, verset 9. Ainsi, moi, ça c'est donc c'est le centurion qui vient le voir Jésus. Et qui dit, ainsi moi je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre vient, et il vient. Et à mon esclave, fait ceci, il le fait. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le déclare, chez personne d'Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Le centurion confesse l'autorité de Jésus. On retrouve ça au chapitre 9, verset 6. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralytique, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Jésus affirme son autorité. Chapitre 9, verset 8. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. On voit que le texte même souligne cette note. Alors voilà la première note. L'autorité de Jésus qui s'exprime en 8 et 9. Mais cette autorité, vous allez la retrouver dans la section 4. Chapitre 11 et 12, dans la section narrative 11 et 12. Vous me suivez toujours là, ça va? Parce que, bon. 11 et 12. Alors, le thème de l'autorité est présent. Chapitre 11, verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La question de Jean-Baptiste. Es-tu le Messie attendu? As-tu cette autorité? Chapitre 11, verset 11.
En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés de femmes, dit Jésus, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors ça, c'est très frappant. Jésus dit que celui qui est lié à lui, dans le royaume des cieux, c'est sa prédication, est plus grand que Jean-Baptiste même. Là, il y a une affirmation du rôle de Jésus qui est assez étonnante. Chapitre 11, verset 18. Quelque chose de scandaleux. Matthieu 11, 18. Venez à moi. 11, 18. Matthieu 11, 18. Oui, c'est ça. 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Ça, c'est incroyable de dire ça. Ça a de quoi scandaliser un juif. Venez à Dieu, et il vous donnera du repos. Jésus dit, venez à moi. Prenez mon joug. Aucun rabbi n'aurait osé dire ça à l'époque. 12, verset 6. Or, je vous le déclare, donc vous savez que c'est l'histoire, donc il rappelle l'histoire de David, le fils de l'homme, il parle de l'autorité, en fait, c'est les disciples qui mangent du blé, hein, dans les champs. Puis Jésus dit, mais vous savez, à l'époque de David, et puis on critique les disciples, et puis il dit, oui, mais à l'époque de David, David a bien mangé les pains de proposition, les pains qui étaient présentés dans le temple, et le grand prêtre a accepté. Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 6 ? Or, je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple. Jésus s'affirme, se présente, se dévoile petit à petit. Chapitre 12, verset 8, juste après. Car le Fils de l'homme, donc, est maître du sabbat. Il y a plus que le temple. Chapitre 12, verset 29. Je vais prendre 12, verset 29, je vais un peu plus vite. Ou encore, mais si c'est par l'esprit, verset 28, que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Ou encore, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort? Alors il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il y a là une revendication incroyable d'autorité. Si c'est par l'esprit que je guéris, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et donc c'est moi qui lie l'homme fort, c'est moi qui ai la force, la puissance, l'autorité de lier le démon. Chapitre 12, verset 41. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien ici, il y a plus que Jonas. Jésus n'est pas seulement plus que le temple, il est plus que Jonas aussi. Et c'est pas tout. Verset 42. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien il y a ici plus que Salomon. Plus que le temple, plus que Jonas, plus que Salomon. Revendication d'autorité. Je saute le reste. Voilà la première note. On trouve donc, dans ces deux sections, une auto-affirmation de l'autorité de Jésus. Il se présente avec autorité. Deuxième note, que Matthieu joue dans ces deux sections, dans les parties narratives, c'est l'étonnement des foules. Les foules sont étonnées. On trouve surtout cette note dans la première section, donc dans les chapitres 8.1 à 9.34. Alors, on l'a déjà vu à la fin du sermon sur la montagne, nous l'avons lu. Mais si l'on prend maintenant le chapitre 8, verset 27, donc dans les deux sections que nous étudions, 8, 27. Les hommes Donc après la tempête apaisée, les hommes, c'est certainement les disciples, mais là, Matthieu utilise un mot qui généralise d'une certaine manière. Les hommes s'émerveillèrent et ils disaient, quel est-il pour que même les vents et la mer lui obéissent ? Étonnement, émerveillement, face à l'autorité de Jésus. 8, verset 34. C'est les deux démoniaques gadaréniens qui sont guéris. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Face à cette guérison, toute la ville est émue. Et en même temps, ils ont peur. Qui est-il, cet homme-là, qui a cette autorité ? Chapitre 9, verset 28, 9, verset 8. Donc, la guérison du paralysé. Jésus qui pardonne aussi. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu. C'est de nouveau face à l'autorité de Jésus, réaction de crainte et d'émerveillement. Chapitre 9, verset 26. 9:26, la nouvelle de la guérison de la résurrection de la fille donc de Jaïrus. Verset 26, la nouvelle s'en répandit dans toute la région. Émerveillement, ça court. On sent que les foules en parlent. 9, verset 31. Guérison de deux aveugles. Mais eux, donc, à peine guéris, et à peine sortis, parlèrent de Jésus dans toute cette région. 9, verset 33. 32. Comme ils sortaient, voici qu'on lui amena un possédé muet, le démon chassé. Le muet se mit à parler, les foules s'émerveillèrent et dirent « Jamais rien de tel ne s'est vu en Israël. » On a l'émerveillement. Cet émerveillement des foules est d'autant plus frappant quand on le compare à une autre caractéristique de cette même section. Et ça, c'est très étonnant. Je n'ai pas souvent vu, même jamais, je crois, dans les commentaires. C'est que dans ce chapitre 8 et 9, à aucun moment, les pharisiens et les scribes ne s'adressent à Jésus. Ils parlent entre eux, ils disent, mais il blasphème cet homme-là. Mais à aucun moment ils ne s'adressent à Jésus. On sent que face à l'autorité de Jésus, qui est présenté par Matthieu après le sermon sur la montagne, les foules sont émerveillées, tout le monde parle de ce qu'il fait, on commence à avoir peur, mais qui est-il ? Et les pharisiens parlent entre eux, les scribes parlent entre eux. Ce type-là, attention, il blasphème. Et la section narrative se conclut sur quoi ? Chapitre 9, verset 34, c'est le verset que j'ai pas lu. Mais les pharisiens disaient, c'est par le chef des démons qu'ils chassent les démons. Toute cette section narrative où on voit les foules qui sont de plus en plus étonnées, craintives, mais attirées par Jésus, dans toute cette section, cette section se finit sur quoi ? Juste sur cette phrase. De ces pharisiens qui n'ont pas à aucun moment adressé directement la parole à Jésus. Entre eux, ils l'accusent de chasser les démons par les démons. Là, on voit les pharisiens dans ces sections qui parlent en eux-mêmes, dit le texte, ou entre eux, mais jamais à Jésus. Et que va-t-on voir dans la section qui suit, donc dans la section narrative des chapitres 11 et 12, eh bien on va voir tout à coup ma troisième note, c'est l'hostilité des scribes et des pharisiens. L'émerveillement des foules, l'étonnement laisse place à l'hostilité des pharisiens qui, tout à coup, vont s'adresser directement à Jésus. Et ce qui est résumé en un seul verset, en 9.34, ça va prendre presque toute la place, en tout cas tout le chapitre 12. Tout ce que Matthieu annonce en un seul verset, en 9.34, ça va être développé dans tout le chapitre 12, où l'on va accuser Jésus de chasser les démons par le diable, par les démons. Alors, vous avez une question ?
Oui, je n'ai pas été très attentif. Donc, la première note, c'est l'autorité de Jésus.
Oui.
Et la deuxième, c'est
l'émerveillement des foules.
D'accord. Et la troisième,
l'hostilité des pharisiens. Cette note de l'autorité de Jésus, elle est présente dans la première, dans 8 et 9. Elle grandit dans 11 et 12. Il y a plus que le temple, plus que Jonas, plus que Salomon. Face à l'autorité qui commence à être bien affirmée par Jésus dans 8 et 9, les foules sont émerveillées. Et la seule remarque, disons, l'une des remarques sur les pharisiens, qui n'adresse jamais la parole à Jésus, le conflit n'est pas ouvert. Il est larvé. Juste la fin, 9.34. Ah, c'est par les démons qui chassent les démons. Et donc ça bascule au chapitre 11 et 12, où l'on voit les foules qui en fait sont émerveillées mais qui ne croient pas réellement. Chapitre 11, et toi Bethsaïda, si les miracles qui avaient été faits, où Jésus va censurer les villes qui ne croient pas et qui n'ont pas cru à Jean-Baptiste, cet étonnement qui est superficiel. Donc, on voit les foules, Jésus qui va censurer les foules, et en même temps les pharisiens, les scribes, qui vont alors mettre le paquet et attaquer Jésus de front, l'accuser directement, lui parlant, en disant c'est par les démons que toi tu chasses les démons. Il y a là une croissance dramatique, une montée dramatique, un crescendo dans le caractère dramatique de l'histoire, de la relation. Alors, montrons ça maintenant donc, dans cette troisième note, l'hostilité des scribes et des pharisiens. L'hostilité, donc, en 12.2. En 12.2. Donc, d'abord, au chapitre 11, eh bien, on voit les foules. Jésus les censure. Verset 16. À qui vais-je comparer cette génération? Elle est comparable à des enfants assis sur les places qui en interpellent d'autres. Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit. Et l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne. Un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Voilà. Votre étonnement, c'est bien superficiel. Ça, c'est pour les foules. Et au chapitre 12, alors là, c'est l'opposition des pharisiens et des scribes. Chapitre 12, verset 2. Voyant cela, les pharisiens lui dirent à Jésus. C'est la première fois qu'il lui adresse la parole dans Matthieu. Première fois dans Matthieu. Ils lui dirent à Jésus, vois tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire le sabbat. Alors là, c'est le sabbat, élément sacro-saint, dans leur compréhension des choses, les pharisiens, c'est le prétexte qui permet d'ouvrir les hostilités directes. Chapitre 12, verset 38, les pharisiens qui s'adressent de nouveau directement à Jésus. Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole, « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. » Là, on essaie de faire tomber Jésus dans un piège. Il lui adresse donc directement la parole pour s'opposer à lui. Et l'on a bien sûr, je saute un peu tout pour aller plus vite, on a la contestation donc, de l'autorité de Jésus et surtout l'accusation portée par les pharisiens au verset 22, Alors on lui amena un possédé, aveugle et muet. Jésus le guérit en sorte que le muet parlait et voyait. Bouleversé, toutes les foules disaient « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens entendent cela dire « Celui-là ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. » Et vous avez après, dans les versets qui suivent, tout un dialogue entre Jésus et les pharisiens. Jésus qui montre combien la position, leur position est une position d'aveugle. Ils ne voient pas l'évidence. Ils refusent de la voir. Et ils attribuent au diable l'œuvre même de Dieu. L'œuvre de l'Esprit. Vous avez là le texte sur le péché contre le Saint-Esprit. Alors, quel est le lien? Comment expliquer dans Matthieu ce renversement ou ce caractère crescendo ou face à l'autorité de Jésus alors qu'on s'attend à l'émerveillement des foules? Ah là, tout le monde va le suivre. Eh ben non. 9.34, un verset qui est développé dans 11 et 12. On attribue au diable l'œuvre de Dieu. Comment expliquer ce passage dramatique, cette réaction? Eh bien, ça s'explique simplement dans Matthieu par quoi? Par le chapitre 10. La section narrative 8 et 9 et la section narrative 11-12, qui finit d'ailleurs par 13, est séparée par le discours du chapitre 10. Et c'est quoi ce discours du chapitre 10? C'est l'envoi des 12 en mission. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, Jésus est en train de dire aux disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le royaume va être de plus en plus annoncé. Proclamez-le. » La division va être de plus en plus dure, forte, réelle, au sein même du peuple. La guerre est déclarée. Pourquoi est-ce que je parle de guerre? C'est qu'au chapitre 10, pour vous montrer que je crois que ça correspond à l'intention de Matthieu, ce que je suis en train d'essayer de mettre en évidence. Au chapitre 10, verset 34, c'est par ces mots, en gros, que Jésus finit ce discours d'envoi. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, on aura pour ennemis les gens de sa maison. Et puis après, il y a deux choses que Jésus ajoute. Premièrement, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Là, il y a un choix. Face à l'annonce de cet évangile, ces foules émerveillées, le tri va devoir se faire. Qui renonce à sa mère, à son père, pour me suivre? L'envoi des 12 implique ça. Il y a une rupture qui doit se faire, un choix. Et deuxièmement, verset 40, « Qui vous accueille, m'accueille moi-même. » Et accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à un de ses petits en sa qualité de disciple. Vous, mes apôtres que j'envoie. En vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Voilà. Certains dans le peuple vont accueillir. Mais ne nous faisons pas d'illusions. C'est une vraie guerre. Il y a un tri qui va se faire. Et ce tri, il devient évident, chapitre 12. Lorsque les autorités même, pharisiens, scribes, les autorités théologiques, spirituelles, s'opposent de front. Pour la première fois, ils adressent la parole à Jésus, s'opposent de front à cette autorité qui s'exprime dans le personnage du Sauveur. Vous voyez? Le royaume se fraye un chemin avec violence. Et ce sont les violents de la foi, ceux qui renoncent à eux-mêmes, qui s'en emparent. C'est ce qu'on a dans le chapitre 11. Jésus le dit juste après le chapitre 11. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. J'ai essayé de vous montrer au travers de ces deux sections. Alors, La deuxième section finit par les paraboles du chapitre 13. Les paraboles du royaume, qui décrivent quoi? La première section, donc narration et émerveillement des foules, ça finit par l'envoi des 12, qui explique la rupture. Puis la deuxième section, c'est l'opposition des pharisiens, ça finit par les paraboles du royaume. Discours, deuxième, troisième discours. C'est quoi les paraboles du royaume? Eh bien les paraboles du royaume, bon, je vais dire les choses simplement. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire dans ces paraboles? Et qu'est-ce que Matthieu veut nous dire? Il veut nous dire, oui, le tri se fait. Mais alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, ce semeur-là qui sème, c'est pas grand-chose. Ça va porter du fruit. Et ça va aller jusqu'à la fin du monde. Quand le tri se fera et que le royaume sera établi définitivement, que les poissons seront pris dans le filet. J'espère que vous connaissez un peu par cœur un peu ces paraboles pour voir à quoi je fais allusion. Jésus l'a dit, oui. C'est terrible ce qui est en train de se faire. Le tri se fait. Il y a les quatre champs, les quatre terrains. Certains sont heureux, ils reçoivent avec joie, mais en fait, ça ne dure pas longtemps. Il n'y en a qu'un terrain qui est bon. Et puis, il y a l'ivré, et puis il y a le vrai blé. Mais le tri se fait, là. Et puis, à la fin, ben, il y aura quand même, bon, il y aura le jugement final. Et puis, il y a ceux qui cherchent la perle, qui vont vendre tout ce qu'ils ont pour trouver le trésor. Hein, pour le prendre. On se convertit, la violence de la foi, il y en aura. On y va, on continue malgré l'opposition. Voilà ce que dit Jésus dans ses paraboles. Le royaume aura le dernier mot à la fin. Deuxièmement, c'est à vous qui est réservé de connaître les secrets du royaume. Vous qui croyez en mon autorité de ce Fils de l'homme qui sème. Eh bien, vous, vous comprenez les choses réellement. Vous, mes disciples, vous, le petit troupeau, voyez. Et Jésus dit cela, Matthieu place le discours de Jésus là, lorsque l'opposition éclate, pour montrer qu'en fait, malgré les apparences, c'est Jésus qui est le bon camp, qui est du côté de la vérité, qui est du côté du royaume, et pas les autorités qui le rejettent. On pourrait montrer cela, cette idée du royaume, du clivage qui est de plus en plus fort, et de la présentation du roi qui est de plus en plus réelle, au fil du texte et des sections. Il n'y a pas le temps. Je vous encourage à entreprendre vous-même ce travail chez vous. Mais il nous faut avancer. Et on finit à quelle heure, là? 45. C'est bon. Alors, ça va? Vous tenez toujours? Oui? Bon. Nous passons donc à la théologie de Matthieu par les textes. Théologie de Matthieu par les textes. Donc, Matthieu, en structurant son évangile, a essayé de mettre en évidence ce que j'ai essayé de montrer. Son intention, c'est de montrer ce crescendo dramatique qui accompagne le ministère de Jésus. Clivage au sein du peuple, dévoilement du maître, dévoilement progressif, qui aboutit par exemple à la confession de Pierre, etc., etc. Alors, nous allons nous arrêter à présent sur quelques éléments de théologie de Matthieu. C'est qu'en montrant, en décrivant la carrière de Jésus et le drame qui s'est joué autour de Jésus, à cause de Jésus, pendant les deux années et demie de ministère du Christ, donc en décrivant cela, Matthieu nous présente une théologie de l'histoire, beaucoup de choses, hein. J'aurais pu relever bien, mais j'ai relevé cela, une théologie de l'histoire nous offre une présentation de Jésus et une théologie de l'Église. J'aimerais donc que pendant le temps qui nous reste, maintenant et demain, nous voyons quelques points de cela pour montrer comment tout ça, ça va ensemble. Alors tout d'abord, une théologie de l'histoire. Une théologie de l'histoire. Le mot, c'est Franz et de nombreux commentateurs ont souligné que chez Matthieu, l'un des thèmes les plus importants, c'est celui de l'accomplissement. J'en ai déjà parlé. Vous savez que Matthieu utilise plus d'une dizaine de fois, je crois, 11 fois, si je me souviens bien, je n'ai pas les notes précises sous les yeux, mais le mot pléro s'accomplit, ainsi s'accomplit, plus d'une dizaine de fois. Et il y a d'autres formules qui soulignent qu'il y a accomplissement dans la vie de Jésus. Alors bien sûr, cet accomplissement est particulièrement souligné de manière très volontaire, de manière rédactionnelle, si vous voulez, par Matthieu, dans le grand prologue. Déjà dans la généalogie, chapitre 1, verset 1, nous voyons Matthieu présenter Jésus comme l'accomplissement des promesses. Alors, chapitre 1, verset 1, livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et vous avez après Abraham engendra Isaac, bon, et puis vous avez trois strophes, si vous voulez, dans cette généalogie. Vous en avez une qui va verset 1 jusqu'au verset 11. Josias engendra Jéconias et ses frères, ce fut alors. Bon, ça va d'abord, c'est jusqu'au verset 6, excusez-moi. C'est jusqu'au verset 6, donc Jessé engendra le roi David, point. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc on arrive d'Abraham à David, puis de David à la déportation, verset 11, et puis de la déportation de Babylone à Jésus-Christ, au verset 16. Et alors au verset 17, Matthieu dit, le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 à la déportation de Babylone au Christ. Donc 3 fois 14. D'accord ? Bon. On n'a pas le temps d'étudier le texte, mais nous avons là affaire à une généalogie typiquement vétérotestamentaire ou une généalogie qui n'a rien à voir avec nos arbres généalogiques à nous. Il faut bien comprendre cela. Il suffit de comparer cette généalogie à celle de Luc pour se rendre compte qu'une grande partie des noms ne se retrouvent pas. Et dans Matthieu et dans Luc. Il n'y a que quelques noms qui sont communs à Matthieu et à Luc. En particulier en ce qui concerne tous ceux qui sont nommés pour la déportation, après la déportation, ce ne sont pas les mêmes mots, les mêmes noms. On a donc affaire à deux généalogies assez différentes. La généalogie de Luc est une généalogie qu'on pourrait appeler assez réelle. Peut-être quelque chose qui ressemble assez à nos arbres généalogiques. Dans Luc, peut-être. Dans Matthieu, nous avons affaire à ce qu'on appelle les généalogies royales. Royales. Qui sont conformes à un genre littéraire tout à fait reconnu à l'époque. J'aimerais de nouveau dire cela parce que j'imagine que certains vont tout de suite dire, mais attention, si c'est pas vraiment vrai, mais alors c'est faux. Enfin bon. Quand je dis par exemple que Napoléon est le fils de Louis XIV, ou quand je dis que Mitterrand est de la lignée des rois de France, d'un souverain, la lignée des souverains français. C'est, on pourrait dire, une généalogie royale. J'affirme quelque chose qui n'est pas vrai biologiquement, mais qui est vrai juridiquement. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Vous savez que Jésus n'est pas le fils de Joseph. Mais et la généalogie de Luc Et la généalogie de Matthieu remonte à Joseph et pas Marie. Marie n'est pas fille de David. Jésus est fils de David par Joseph. C'est d'ailleurs ce que dit Matthieu, hein, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Et il est dit au chapitre, verset 18, attendez, c'est où ça? Joseph, son époux, ça c'est marqué où? Parce que Joseph est fils de David. Ah. Oui, c'est dans... Ah voilà, c'est ça. C'est le verset juste. Il avait, dans verset 20, il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David. Jésus est fils de David par Joseph, parce que Joseph est vraiment son père juridique. Ce n'est pas son père biologique. Et dans l'Écriture, la biologie n'est pas tellement importante. C'est son père adoptif, et donc juridiquement, il est vraiment fils de David. On est fils de celui dont on est fils juridiquement devant Dieu. Pas d'abord biologiquement. Pas seulement biologiquement, en tout cas. Jésus est fils juridique de tous ces rois, de tous ces personnages, dont il est l'héritier légitime devant Dieu. Il est fils de David juridiquement. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. Nous avons là une biographie juridique, une biographie royale, pourrait-on dire, comme c'était le cas au Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient ancien. Deuxièmement, lorsque l'on prend les personnages qui sont cités dans cette généalogie, on se rend compte qu'il y a des sauts. C'est pas 14, 14 et 14. Parfois, on passe du grand-père au petit-fils. Et que si Matthieu présente 14, 14, 14 personnages chaque fois, 14 générations, si vous voulez, c'est pour dire autre chose que simplement donner un arbre généalogique. Il saute volontairement une génération parfois. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que chaque fois, il y a 2 fois 7. Que Jésus, vous savez que 7 c'est le chiffre de la perfection, hein, c'est 3 fois 14 là. C'est 7 plus 7 fois 3. Jésus, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de toute cette histoire qui part d'Abraham, le père de la promesse, qui passe par David, et qui aboutit à Jésus. Jésus, c'est celui qui accomplit, en qui toute l'histoire aboutit, de la rédemption aboutit. Voilà ce que Matthieu veut dire par sa généalogie. Et alors, cette notion d'accomplissement, Matthieu va la développer constamment. Et j'aimerais souligner qu'il ne faut surtout pas la limiter simplement à des accomplissements de prophétie. Disons, de tel ou tel prophétie. C'est le cas. Dans les péricopes qui suivent, chaque fois, Matthieu va souligner que les événements de l'enfance de Jésus accomplissent une prophétie de l'Ancien Testament. Oui. Alors, je dirais cela. Jacques Chirac est le fils de François Mitterrand. Bon, on pourrait dire ça comme ça. C'est plus compliqué, mais bon. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la continuité de François Mitterrand. Même s'il n'est pas biologiquement. Hein. Bon, on sait que François Mitterrand a beaucoup, enfin bon, quelques enfants éparpillés par-ci par-là, mais Jacques Chirac, c'est pas le cas. Hein. En tout cas, donc, Jacques Chirac n'est pas le fils de François Mitterrand. Excusez-moi, la remarque est un peu méchante, mais bon, elle est vraie quand même.
Fils spirituel de Gaulle, Jacques est le fils de Gaulle, Jacques Chirac est le fils de Gaulle. Oui. Alors, dans l'Ancien Testament, dans les lignées de rois et dans la Mésopotamie de l'époque, hein, dans le Moyen-Orient de l'époque, vous avez des listes de chronologie royale comme ça. Et on peut prouver que dans ces listes de chronologie royale, certains rois ou certains pharaons ne sont pas du tout de la même famille que ceux qui précèdent. Mais on les lit parce que ils sont les héritiers juridiques, parce que en eux ça se continue la royauté. Des héritiers dynastiques, pourrait-on dire. Eh bien, Jésus est l'héritier de cette dynastie qui est la dynastie de David, du Messie. C'est lui qui hérite de cette promesse, c'est lui qui l'incarne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut prendre ce mot de manière assez large. Hein. C'est une génération juridique, une génération royale. C'est un arbre généalogique messianique, pourrait-on dire. Un arbre généalogique de type... Alors, Joseph est vraiment fils de David. Matthieu le souligne. Il y a certainement, et Luc le souligne. Joseph est de la tribu de Juda, et biologiquement, il est fils de David. Mais il n'est certainement pas fils de tous les rois dont il est question là. Mais étant de cette lignée de David, Jésus, lui, en lui s'accomplit tous ceux qui, dans cette lignée de David, ont été rois et ont incarné la dynastie de laquelle devait sortir le Messie. Ça va ?
C'est différent pour Jésus parce qu'il y a des rois qui avant Jésus, et qui n'étaient pas dans la vie de David. Et comment expliquer ça ? Mais encore, ça pour moi, c'est un problème parce qu'avant Jésus, il y avait des rois.
Oui, mais en Juda, les rois, donc le site. Les personnages que cite ici Matthieu sont des personnages qui ont régné à propos. Donc David engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Asa, Josaphat, Joram, tout ça, ce sont les rois de Juda dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on compare avec Luc, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes personnages. En tout cas, pas toujours les mêmes personnages. Il y a beaucoup de différences. Ça veut dire Joseph étant fils de David de la tribu de Juda. Jésus est de la tribu de Juda, il est de la lignée de David, et en lui s'accomplit tout ce qui, dans cette lignée-là, était promis pour la lignée de David. Il est le Messie de la lignée de David. Et donc, en ce sens-là, il accomplit ce que Salomon, Roboam, Josaphat, Joram, Ozias, tous ces rois de Juda ont été. Il est le roi d'Israël, de Juda. Oui.
Est-ce que pour le judaïsme, est-ce que c'est accepté cette version que le Messie doit être le descendant non biologique, mais juridique
de... Alors le Messie doit être le descendant biologique, il doit être fils de David. Mais Jésus est fils de David par Joseph, il l'est. Mais d'après Luc, il n'est pas. On peut penser. Donc Jésus est vraiment de la tribu de Juda, biologiquement. Joseph est de la tribu de Juda. Et Joseph semble avoir été de la famille de David. Mais, si vous prenez la biologie, l'arbre généalogique de Luc, vous ne retrouvez pas tous les rois et tous les personnages dont il est fait mention dans Matthieu. Alors, qu'est-ce que dit Matthieu ? Matthieu dit, oui, bon, Joseph est fils de David, Jésus est fils de David, il est bien de cette lignée-là, il est bien fils de David. Et étant le Messie, il incarne en lui-même, il est l'aboutissement de l'histoire royale de la lignée de David. Même si biologiquement, peut-être, par Joseph, il n'est pas toujours l'ancêtre de tel ou tel roi. Lui, il accomplit, il est l'aboutissement de cette lignée royale. Parce qu'il est, il est bien de la lignée de David. Donc il y a une réalité biologique, ça c'est sûr, mais il y a aussi une réalité juridique.
Oui, pour la dernière partie de la généalogie, après Zorobabel, ce ne sont plus des personnages dont on entend beaucoup parler, je crois, dans l'acte de la vie. Oui. Et il y a toujours des grosses différences avec Luc. Qu'est-ce que ça, comment ça rentre dans le cadre de la généalogie royale, si ce sont des gens dont on n'entend jamais parler, à moins qu'on en ait entendu parler autrement dans les histoires dans le...
Mais je ne sais pas. Alors là, c'est sûr que ça rentre dans... Ce sont des données que nous donne Matthieu, nous donne Joseph, nous donne Luc à propos de Joseph, et on ne sait pas très bien. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut en penser.
Donc, la généalogie, le principe de la généalogie royale ne permet pas d'expliquer toutes les différences entre Matthieu et Luc.
Certainement pas tout, une grande partie, certainement pas tout. Et je n'ai pas assez étudié la question pour ça, pour dire si les personnages dont il est fait mention ici dans Matthieu sont des gens qui, dans la tradition de l'époque, que l'on retrouve dans les écrits rabbiniques, sont des gens qui font partie de la lignée de David. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si on a assez de textes pour pouvoir le dire. Je ne sais pas. En tout cas, oui. Alors, ça c'est certain. Alors, je dirais, on pourrait répondre en demandant à quoi ça sert les arbres généalogiques que nous faisons aujourd'hui. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de remonter jusqu'à la Révolution ou jusqu'au XIIe siècle pour pouvoir dire que moi, je suis le fils de telle ou telle personne? Il y a des gens aujourd'hui... Ça sert à quoi? Donc c'est un problème d'identité, un problème de savoir qui je suis, de quoi est-ce que j'hérite, bien. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ça veut donc dire que Jésus, si je prends cette arbre généalogique, ça veut dire que Jésus est d'abord fils de David, biologiquement par Joseph, verset 20, qu'il est bien de la tribu de Judas. Et qu'en lui s'accomplit toute la lignée royale qui est la lignée de Judas. L'identité de Jésus, c'est le fils de cette dynastie qui aboutit au Messie. Oui, c'est ça. Oui. Ah ben ça servait à cela. Ça servait par exemple à dire que ce roi est un roi qui fait partie de cette... qui est un héritier légitime de cette lignée dynastique. Alors, il y a parfois, donc il y a deux styles, hein, il y a soit quelqu'un qui s'intègre dans une lignée dynastique, on dit c'est vraiment, bon, j'en fais partie, bon, je suis peut-être le petit-fils, soit le petit-fils, ou pas tout à fait par telle ou telle, la même mère que, bon, mais je suis quand même son fils, légitime de tel roi. Ou alors, il y a une rupture dynastique. Il y a des instaurations, une nouvelle dynastie, et je suis donc l'ancêtre de cette nouvelle dynastie. Et on se raccroche à cette nouvelle dynastie, et tous ceux qui en descendent, et qui s'intègrent dans cette dynastie, étant peut-être le fils du frère du roi. Mais dire, je suis quand même fils du roi. C'est pas un raccourci. Un raccourci juridique. Mais c'est pas faux. Parce qu'il est de la famille et c'est lui qui a succédé. Donc je peux dire, je suis le fils du roi, même si je suis le fils du frère. Mais je suis devenu, à cause des événements, roi pour succéder à mon oncle, par exemple.
Mais moi, ça me pose un problème par rapport à la filiation sur un point de vue juridique. Je ne saisis pas, quand vous faites une distinction entre l'aspect biologique, je suis en train de m'appliquer, et sur l'aspect juridique. Je ne connais pas les textes de loi qui existaient par rapport à la question que je vous posais à l'époque. Est-ce qu'en France, au droit de vie civile ou code civil, on peut être tuteur d'une personne dans le cadre de l'adoption ou quelque chose comme ça, ou adopter, donner son nom donc à quelqu'un, à un individu, donc il reste, il est intégré dans la famille comme s'il était génétiquement procréé par le père et la mère. Ou alors on peut être tuteur sur un droit donc civil, juridique, où le tuteur prend en charge l'éducation, etc., etc., sans avoir ce droit du sang, en fait, en quelque sorte, puisque ce n'est pas une lignée de sang, ce n'est pas génétiquement. Alors, ça me pose un problème par rapport à ce que vous disiez. Je comprends je pense comprendre ce que vous voulez dire par rapport à la lignée, c'est-à-dire quelqu'un qui, par voie détournée, n'est pas un fils direct d'un roi, etc., qui prend la succession normale, ça peut être un cousin ou un neveu ou n'importe quoi. Là, ça fait plus référence à une caste, donc on garde quelqu'un de la caste.
C'est le cas de Jésus. Hein.
C'est le cas de Jésus, mais. Oui, mais il n'était pas biologiquement fait par Joseph. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on le considère comme Joseph comme étant un tuteur, puisque ce n'est pas son père biologique, là, Jésus.
Non, c'est son père juridique.
Par rapport à la généalogie, bon, ce qu'on a l'arbre généalogique, on pose moins de problèmes quant à moi, dans la mesure où la prophétie disait que Jésus viendrait de la lignée de David. Ça me pose moins de problèmes. Mais ça pose plus un problème dans le sens de la distinction que vous faites par rapport à l'aspect juridique. Et
alors Joseph est le père adoptif de Jésus.
Et moi je l'entends comme ça, comme en tant que père adoptif ou futur de Jésus qui prend en charge, qui a pris en charge mon quotidien sur un mode culturel traditionnel, la fonction de père dans le cadre de l'éducation entre 0 ans et les premiers mots ou les premières choses que vous connaissez de Jésus.
Oui, mais alors Joseph est vraiment le père, le... il n'y a pas plus père possible que Joseph pour Jésus. Tout ce
mais
que.
Biologiquement parlant,
ça n'a pas l'importance.
Ben pour moi, si.
Oui, mais pour l'écriture, non.
Ah, ben je crois que.
Non.
Pour moi, ça reste un aspect fondamental.
Mais là, vraiment pas.
Vous posez aussi la question, est-ce que c'est important qu'on fasse nous-mêmes de la recherche de notre arbre généalogique sur nos origines? Moi, je crois que c'est important. Ça, quelqu'un qui est intéressé par cet aspect-là, ça peut être important. Je crois que c'est intéressant de savoir d'où on vient, etc. Mais je crois que dans l'évolution d'un être humain, Jésus c'est Jésus, on est bien d'accord, c'est aussi important de savoir si c'est un père biologique ou pas biologique. Je crois que ça change les choses.
Alors là, je crois que c'est une lecture vraiment très disons, moderne de la paternité. Joseph est considéré dans l'Écriture comme le vrai père juridique, c'est-à-dire qu'il n'a pas, Jésus n'a pas été engendré, ça c'est clair. Mais tout ce qui est à Joseph et tout l'héritage de Joseph est transmis à Jésus. Il est fils de David par Joseph. Oui. Non. Oui, alors c'est devenu le cas par la suite, mais ce n'est pas dans l'Écriture, c'est par le Père que l'on est. C'est par la suite, lorsqu'il y a eu la diaspora, lorsque Jérusalem a été détruite, lorsqu'il y a eu la diaspora, dans le rabbinisme, un Talmud, dans le rabbinisme, il y a eu un changement, hein, on devient juif par la mère. Pourquoi ? C'est parce que des juifs, disons, dispersés au milieu des païens, il était plus facile de contrôler l'origine par la mère que par le père. Et donc il y a eu cet infléchissement très net. Dans le judaïsme. On est fils du Père dans l'Écriture. Je prends un exemple. Ismaël, c'est l'enfant de qui ? C'est l'enfant d'Abraham, et ce n'est pas l'enfant d'Agar. Juridiquement et réellement, c'est l'enfant de Sarah.
Oui,
mais
c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à ma première question, en fait, dont je suis allé loin de ce que je voulais, c'est de savoir juridiquement ce que ça impliquait, comment ça se passait quand une femme, par exemple, avait un enfant, c'était pas le père, le vrai père, bon, je pense que là c'était un cas d'adultère, etc. quoi. Mais dans le cas de l'adoption, si ça existait, comment ça
se
concrétisait à l'époque, bon, pour Sarah, je comprends tout à fait, puisque bon, la coutume voulait que quand la femme était stérile, la scène des servantes ou qui pouvait accoucher, accouchait sur les genoux de la femme. L'enfant sortait comme si c'était la femme qui était stérile, qui avait accouché.
Oui, mais
ça,
bon.
C'est une
oui, mais alors, si on disait ça aujourd'hui, si on disait à une femme aujourd'hui que ton fils que tu as accouché, c'est pas ton fils.
Mais que là. On n'est pas là, je veux dire, là, quand on parle du cas de la femme, on est quand même dans des mœurs et des coutumes qui datent quand même de quelques millénaires, et puis je veux dire, on ne sait pas, on ne peut pas le calquer aujourd'hui.
Non, mais ça veut dire. Je vais montrer l'importance du lien juridique qui existe. Hein, que et Abraham et Sarah et Dieu ont considéré qu'Ismaël était le fils d'Abraham et de Sarah. Alors, Dieu est intervenu pour rééquilibrer cette pratique un peu étrange en bénissant Agar et Ismaël. Mais Dieu a donné raison à Sarah en disant chasse les esclaves et son fils. Hein, parce que justement, Sarah.
Ça, c'était une coutume quand même. Parce que là, est-ce qu'on peut dire. Enfin, je ne sais pas, peut-être mes connaissances, mes petites connaissances en la matière. Est-ce que, alors, la question, de façon plus abrupte, est-ce que c'était une coutume ou pas? L'exemple que vous donnez par rapport à Sarah, c'était est-ce que c'était propre à une histoire précise?
Non, c'était une coutume.
De Germain, Sarah et Agar. Où ça pouvait se produire dans d'autres types de familles ou dans d'autres clans.
C'est une coutume, comme l'adoption était une coutume très courante.
Donc c'est pour ça que je posais la question par rapport à la naissance de Jésus, quel était le droit juridique sur la filiation?
Il est adopté, il est pleinement fils comme n'importe quel fils. Lisez Bénure.
Donc, on est d'accord.
Joseph, oui.
Il n'y a pas de lien biologique.
Non, il n'y a pas de lien biologique entre Joseph et Jésus, mais Jésus est fils de David par Joseph. Joseph, Flavius Joseph. Vous avez tous entendu parler de Flavius Joseph à l'époque. Donc Flavius Joseph, qui n'est pas le Joseph de l'Écriture, hein, donc c'est de la même époque, hein, qui a prophétisé au général romain qui deviendrait roi, qui deviendrait empereur, qui est devenu empereur, où il a été récompensé, et il a été adopté par les Flaviens, cet historien juif Joseph. Et il s'appelle Flavius Joseph. Et il était pleinement un Flavius, juridiquement et réellement. Eh bien Jésus était pleinement le fils de Joseph, parce que Joseph, juridiquement, l'a adopté. Et toutes les promesses faites à David, par Joseph, sont bien accomplies en Jésus. Et c'est pas parce qu'il n'est pas enfant biologique que ce n'était pas possible. Non. Oui. Il faut qu'on arrête. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Ça va beaucoup plus loin. Hein. Il me semble que l'on peut dire que nous sommes, il y a un fondement beaucoup plus profond tout cela, c'est que nous sommes aussi enfants de Dieu par adoption. Et pourquoi? Parce que nous sommes juridiquement justifiés en Jésus-Christ. Et que, étant libérés de notre identité en Adam, nous sommes maintenant dans une nouvelle identité en Jésus, grâce à la justification juridique par la foi, et que cela nous change de statut devant Dieu. Et nous sommes, à cause de la foi et de la conversion, en Jésus-Christ. Et une adoption, là, juridique et plénière par Dieu. Oui.
À propos de d'Ismaël, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté qui subsiste? Parce que vous avez vous-même cité le texte, il dit bien chasse l'esclave et son fils. C'est Sarah qui dit ça. Elle n'avait pas l'air de le reconnaître tout à fait pour son fils.
Non, parce que justement, Ismaël et Agar, Ismaël se moquait de Sarah, et Agar se moquait d'elle en disant c'est mon fils, c'est pas le tien. Et qu'il semble bien qu'il y a eu des problèmes tout à fait compréhensibles que l'on retrouve dans les histoires de mères porteuses aujourd'hui, hein, où l'on loue un ventre et la femme vend son enfant et au moment de la naissance elle dit je ne veux pas l'abandonner. C'est un peu ce qui s'est passé avec Agar. C'est qu'Agar a fait un enfant à Sarah et au moment de l'enfantement ou en tout cas par la suite, eh bien Agar disait c'est mon fils. Oui, parce qu'elle n'en veut plus.
Ah oui, mais...
Chasse-le et son fils. C'est fini. Mais bon, il y aurait là, il faudrait bien sûr discuter aussi sur la manière, est-ce que Dieu a totalement approuvé ou pas. Bon, donc, en gros, ce qu'on peut dire, parce que c'est l'heure qui... Oui.
Oui. Juridique aussi, et que en lui se trouve l'accomplissement, donc à travers la généalogie, enfin, cet aspect-là de la généalogie, plutôt que l'aspect simplement charnel biologique.
C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Alors, dans la généalogie de Luc, Joseph est aussi fils de David. Donc, c'est bien la même chose. Mais c'est par la suite que Joseph est fils de David dans Luc, par d'autres personnages que les rois qui ont succédé à David. Alors, qu'est-ce qu'est en train de dire Matthieu ? Matthieu est en train de dire Jésus est vraiment le fils biologique de David, par Joseph. Donc, il hérite de la messianité, si vous voulez, de cette promesse. Et pour vous montrer cela, je souligne que Jésus hérite de la royauté qui a succédé au fil des époques, à partir de David. Il est le digne héritier de cette ligne dynastique. Voilà ce que Matthieu dit en nommant tous ses rois. Donc, il y a une réalité biologique. Jésus est bien fils de David. Mais cette réalité biologique, Matthieu l'explicite en disant Jésus hérite de tout ce qu'a représenté la promesse messianique. Voilà, c'est ce que veut dire Matthieu. Alors, nous verrons demain la suite du texte et j'essaierai de montrer, de finir cette question d'accomplissement et nous commencerons la présentation de Jésus.